Selon une étude scientifique parue la semaine dernière, l'élévation du niveau des mers fera 3 fois plus de victimes que prévu. D'ici 2050, 300 millions d'habitants risquent d'être confrontés également à des inondations côtières au moins une fois par an. Voilà quelques-uns des résultats obtenus donc par des chercheurs américains qui publient dans le même temps une carte interactive des zones du globe qui seront les plus touchées par la montée des océans. Le chercheur Stéphane Costa, qui est président du conseil scientifique de la stratégie nationale de gestion du trait de côte, est l'invité de la Terre au carré pour nous détailler cette étude qui concerne également la situation en France, puisque 1 million de personnes dans notre pays seront concernées par des inondations récurrentes. Vous pouvez lui poser dès maintenant vos questions en nous rejoignant au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et bien sûr sur le mot-clé l'attaque. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
On passe au vert ensemble dans un instant.
Et on va dans les cantines scolaires qui ont désormais pour obligation de servir au moins un repas végétarien par semaine.
Dans la deuxième demi-heure, le nouveau portrait d'un jeune activiste européen avec Caroline Gillet. Vos solutions pour la planète avec aujourd'hui Simon, un auditeur de Nantes, qui va nous parler d'un portail web des alternatives. Et puis enfin, notre invité découverte est le réalisateur Stéphane Ballet qui sort Vitis Prohibita, un documentaire inédit sur les cépages interdits. Voilà pour le sommaire de cette Terre au carré réalisée par Valérie Ayestaraï avec à la technique Arnaud Caillet et Paul Percheron.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Bonjour Stéphane Costa.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes donc professeur à l'Université de Caen et président de ce conseil scientifique de la stratégie nationale de gestion du trait de côte. Alors évidemment, j'ai tout de suite envie de savoir ce que c'est exactement qu'un trait de côte.
Oui, alors c'est porté par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Le trait de côte, en fait, c'est le contact entre la mer et la terre. Et ce trait de côte est extrêmement mobile, aussi bien sous l'influence des marées que des tempêtes, ou bien évidemment, on en reparlera, de l'élévation du niveau moyen des mers.
Ouais. Est-ce qu'on le voit particulièrement évoluer ces dernières décennies, ce trait de côte, hein ?
Alors, on le suit depuis de nombreuses décennies de façon assez précise. Effectivement, il y a de très, très, très nombreux endroits, j'allais dire une majorité d'endroits, où effectivement, nous sommes en phase de recul et de recul fort.
Ouais. Comment on le calcule d'ailleurs, ce trait de côte ? Quels sont les outils que vous utilisez ?
Alors, jusqu'à présent, on utilisait des images aériennes anciennes, hein, d'ailleurs réalisées par l'IGN, l'Institut Géographique National, qui nous fournit des images depuis les années 40. On avait aussi des plans anciens, mais il y avait une marge d'erreur qui était non négligeable. Aujourd'hui, on utilise des données LIDAR aéroportées, des lasers aéroportés qui nous permettent d'avoir des informations beaucoup plus précises et donc de définir cette fois-ci le film d'évolution des formes.
Ouais, on a une cartographie mondiale des traits de côte.
Il existe une cartographie mondiale des traits de côte, plus ou moins fine. Il existe également une cartographie à l'échelle nationale et il existe aussi à l'échelle nationale française, métropolitaine et ultramarine, un indicateur national de l'érosion côtière, qui a été réalisé par le CEREMA en 2015 et qui a été réalisé dans le cadre de cette stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte.
Alors, on va parler évidemment de la France dans un instant. Autour donc de cette publication de Nature Communication, hein, c'était la semaine dernière, qui donc réévaluait finalement l'impact de la montée des eaux sur les populations littorales. Et les résultats montrent qu'avec une hausse du niveau de la mer d'un mètre d'ici 2100, pas moins de 190 millions de personnes devraient être déplacées. C'était 110 millions sur les précédentes estimations. Qu'est-ce qui a permis justement de réajuster à la hausse les résultats ?
En fait, c'est une meilleure précision des altitudes cartographiques à partir des images satellites notamment, et qui ont permis de mieux cerner, découper les espaces qui étaient potentiellement inondables. Et donc, à partir du moment où on a les enveloppes d'inondation, on peut ensuite définir le nombre de personnes qui se trouvent à l'intérieur de ces enveloppes et donc d'avoir des estimations bien plus précises, quand bien même la précision reste à définir dans le cadre de cette étude. Mais ce qui est assez dramatique, c'est qu'à chaque fois qu'on revoit les chiffres d'élévation du niveau des mers, de changement climatique, de personnes menacées, à chaque fois c'est à la hausse.
Ouais, donc là c'est 1 mètre pour 2100. Là, ce résultat n'a pas été revu à la hausse. Hein. C'est les conséquences plutôt là qui sont évoquées.
Là, ce sont les conséquences qui sont évoquées, mais je dirais que aujourd'hui il y a une communauté scientifique de plus en plus importante qui considère qu'effectivement en 2100 nous aurons plus 1 mètre d'élévation du niveau des mers. Ça dépendra de notre capacité à réduire les gaz à effet de serre dans l'atmosphère.
Mais ça pourrait être plus également.
ça pourrait être plus, et on peut peut-être qu'on en reparlera, mais ça risque d'être plus au regard justement de ces émissions de gaz à effet de serre qui ne se réduisent pas. Oui. Et aujourd'hui, on est plutôt sur la tendance, je dirais, d'une augmentation de température qui pourrait être de 3, voire 4 degrés, en tout cas bien au-delà des 2 degrés espérés. Et là, dans ce cadre-là, l'élévation du niveau des mers sera bien supérieure au mètre.
Ouais. Rappelez-nous, Stéphane Costa, finalement, le lien direct entre les émissions de gaz à effet de serre et la montée du niveau de la mer. Qu'est-ce qui se passe finalement dans toute cette mécanique?
Alors en fait, les gaz à effet de serre vont augmenter la température atmosphérique, et cette température atmosphérique augmentant va faire fondre les glaciers continentaux et va dilater les molécules d'eau à l'échelle des océans. Et donc cette combinaison de fonte de glace continentale plus dilatation des molécules d'eau fait que nous allons avoir une élévation du niveau des mers.
La Terre, dans son histoire, a déjà connu des épisodes similaires avec cette rapidité aussi dans le processus ou pas?
Alors, il y a eu de nombreuses variations du niveau moyen des mers qui étaient liées à des changements climatiques, eux-mêmes liés à des phénomènes astronomiques. Ça, c'est assez bien connu avec des grands cycles de 100 000 ans ou de 40 000 ans ou de 21 000 ans. C'est des choses qui sont assez bien connues, mais avec une telle intensité, c'est la première fois qu'on l'observe.
Donc, c'est vraiment ce qui caractérise cette période que nous vivons aujourd'hui. C'est la rapidité, justement, de...
La rapidité et l'intensité.
Ouais. Qu'est-ce que vous retenez, vous, finalement, de cette étude? Est-ce que vous êtes d'accord en tout point, d'abord, avec la proposition des chercheurs américains? Et qu'est-ce qui se dégage, finalement, d'important? On parlait du nombre de personnes qui allaient être concernées, justement, par la montée des eaux.
Oui, alors, comme toute étude scientifique, il y a forcément des limites, mais cette étude apporte vraiment beaucoup d'informations à l'échelle planétaire beaucoup plus fine, même si je pense que dans un futur proche, on pourra encore affiner les choses, mais ça permet de montrer l'ampleur des enjeux, l'ampleur des dégâts, et donc la nécessité d'anticiper ce qui va se passer, parce que là, on parle de centaines de millions de personnes à déplacer. Ouais. Comment, où on va les déplacer.
Ouais. Donc la fourchette aussi est assez large, hein, entre 300 millions de personnes ou 600 un peu plus de 600 millions selon, évidemment, là aussi, les émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a différents scénarios qui sont proposés par les chercheurs. Il faut en tenir compte, hein.
Absolument. Absolument. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on regarde à l'échelle globale, mais il y a des pays qui vont pouvoir être résilients face à ces nouveaux impacts liés à l'environnement, et puis il y a des pays qui ne pourront pas le faire. Mmh. Et ça sera particulièrement dramatique pour les populations de ces pays.
Alors, il y a eu un épisode qui peut vous sembler anecdotique, en tout cas, il est symbolique par rapport à cette affaire de montée des eaux. C'est ce phare danois qui a été déplacé, c'était le 22 octobre dernier. On va écouter justement un son extrait des informations qui nous raconte cette histoire.
Voici le phare de Rødbjergknud, au nord du Danemark, un monument historique construit en 1899. Un colosse au pied d'argile. À cause de la montée des eaux, le phare risquait de disparaître. Impensable pour les Danois. Déplacer le phare. Le déménagement ne fait que 70 mètres, mais il mobilise depuis août dernier ingénieurs et experts. Le phare fait son poids, 1000 tonnes. 4h30 d'opération, de déplacement plus tard, le phare n'est pas endommagé ni fissuré. Selon certains, d'ici 30 à 40 ans, il faudra sans doute à nouveau déplacer l'édifice.
Alors Stéphane Costa, même si là dans cette étude on parle des populations concernées, là on est sur une histoire de phare, mais enfin il y a quelque chose de symbolique, en tout cas une image frappante pour les populations d'Europe du Nord aussi, hein, très concernées par la montée des eaux.
Oui. Peut-être pas tant que ça. En fait, en Scandinavie, eux, ils ont la chance, on va le dire comme ça, d'avoir un continent qui se soulève. Tout simplement parce qu'il y a quelques milliers d'années, il y avait une épaisseur de glace considérable qui a été évacuée par le réchauffement climatique. Mm-hmm. Et aujourd'hui, en réaction, ce continent continue à se soulever de plusieurs millimètres par an. Et qui compense donc l'élévation du niveau des mers qui est marquée sur l'ensemble des océans. Donc en termes d'impact, là, peut-être que dans les pays scandinaves, ça sera moins important. Mais il n'en demeure pas moins que nous avons des phénomènes d'érosion des côtes, là encore important, et qui explique le déplacement de ce phare.
Alors, non loin du Danemark, les Pays-Bas, qui eux sont très sérieusement concernés, par contre, par la montée des eaux, on n'est pas du tout dans le même cas de figure, mais on est quand même en Europe. Mmh. Et là, ça fait partie des régions qui sont vraiment très très vulnérables par rapport à cette hausse du niveau de la mer.
Alors, les Pays-Bas, depuis le début des années 50, suite à une énorme tempête qui avait envahi quasiment la moitié, voire les deux tiers du pays, il y a eu le plan, ce qu'on appelle le plan Delta, qui a été mis en place, qui a permis finalement de réaliser des digues qui ont protégé le pays. Mais là, on est vraiment dans un autre problème, c'est-à-dire que c'est une question, je dirais, de société, de sauvegarde d'un pays entier. Si les digues disparaissent, effectivement, ce sont les deux tiers, voire les trois quarts des Pays-Bas qui disparaissent. Mmh. Donc là, c'est une cause nationale. Et ils investissent énormément, énormément annuellement pour se protéger.
Ouais. Alors justement, l'étude montre que c'est d'abord l'Asie hein, qui est la plus concernée justement par la montée des eaux. Je crois que c'est 8 pays en particulier, dont le Japon, le Bangladesh et d'autres encore, qui représentent à eux seuls 70% des populations qui seront concernées donc à l'horizon 2050. Hein.
Absolument. Ce sont en plus des pays qui sont... en tout cas ces espaces pas très très hauts par rapport au niveau de la mer et surtout très fortement densifiés, c'est-à-dire une population extrêmement dense en bordure de littoral.
Mmh. Que nous dit l'étude sur la France? Parce qu'elle aussi est concernée directement par le sujet.
Et oui, malheureusement nous sommes tous concernés. Cette étude dit que finalement nous allons avoir... au moins 1 million de personnes menacées, mais c'est déjà à peu près le chiffre aujourd'hui. Hein. On savait qu'en France, il y avait à peu près 1 million de personnes qui étaient menacées par les submersions de tempêtes aujourd'hui. C'est 10 fois plus pour les inondations continentales. Et je dirais grossièrement 50% concernent la population de la mer de la Manche et de la mer du Nord. Ensuite 40% pour l'Atlantique et le reste pour la Méditerranée.
Comment on travaille sur le sujet finalement aujourd'hui, puisqu'il faut anticiper les effets de cette hausse du niveau de la mer, est-ce qu'on travaille sur finalement des protections comme les digues ou sur des déplacements de population? Qu'est-ce qui vous semble le plus pertinent finalement?
Alors, il faut surtout pas être dogmatique en la matière, c'est-à-dire se dire voilà, la mer monte, tout le monde doit reculer. Je pense qu'il y a des endroits où les enjeux sont tels qu'on pourra continuer à se protéger avec des ouvrages importants, durs, coûteux, mais avec un message clair. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on met des ouvrages qu'on va pouvoir justifier une nouvelle urbanisation derrière, parce que le risque zéro est atteint. Non, pas du tout. On peut mettre des ouvrages, mais avec un discours clair qui consiste à dire cet ouvrage nous donne du temps. Du temps pour organiser éventuellement le repli. Mais il faut savoir que ces ouvrages sont extrêmement perturbateurs. Ils perturbent le fonctionnement du milieu. Et... Je dirais, il n'y a aucun exemple dans le monde qui montre l'intérêt de ces ouvrages à moyen et long terme. C'est-à-dire que ces ouvrages vont parfois exacerber les problèmes d'érosion, voire même les problèmes de submersion.
Donc ça atteint finalement les écosystèmes, c'est les effets pervers
Ce sont les effets pervers de ces ouvrages. C'est la raison pour laquelle on est plutôt à dire il serait préférable de déplacer les personnes et les enjeux. Ça sera moins coûteux et probablement plus pertinent.
Après, il y a le problème de l'acceptabilité des populations elles-mêmes.
Hein. L'acceptation politique et sociale est extrêmement compliquée également, parce que depuis de nombreuses décennies, on veut avoir les maisons les pieds dans l'eau. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on les a.
La conclusion des chercheurs de l'étude, hein, c'est évidemment la baisse drastique des émissions de gaz à effet de serre, sauf qu'on en est loin aujourd'hui, on n'en prend pas vraiment le chemin. Le départ d'ailleurs des Américains de l'accord de Paris est un très mauvais signal à envoyer à ce niveau-là. Hein.
C'est absolument dramatique, mais c'est malheureusement une continuité. Depuis quelques années, le président américain nous habitue à ce type de positionnement. Heureusement qu'il y a bon nombre de pays dans le monde qui ne suivent pas cet exemple. Je prendrai même l'exemple chinois, qui était pourtant montré du doigt il y a encore quelques années, qui aujourd'hui investit lourdement la matière. Bon, c'est pour des raisons aussi différentes, c'est-à-dire que ça, on meurt à tour de bras de pollution dans les grandes villes chinoises, c'est une chose. Et puis deuxièmement, c'est peut-être moins vertueux, mais vendre propre, ça fait vendre.
Et c'est le premier émetteur de gaz à effet de serre au monde, la Chine.
Et oui.
Stéphane Costa, vous êtes notre invité. Vous allez répondre aux questions des auditeurs qui vont vous interpeller à ce sujet sur les réseaux sociaux, sur franceinter.fr et au standard de la Terre au carré. À tout de suite.
France Inter. La Terre au carré.
Camille Cronier, on passe au vert dans les cantines scolaires avec vous aujourd'hui.
Oui, si vous n'êtes pas complètement déconnecté de l'actualité, vous avez certainement entendu que depuis la reprise hier, toutes les cantines de France, de la maternelle au lycée, doivent proposer un menu végétarien au moins une fois par semaine. Expérience obligatoire qui doit durer 2 ans. Elle est inscrite dans la loi dite Egalim, loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, et une alimentation saine, durable et accessible à tous. Pas de viande ou de poisson une fois par semaine, les élèves sont plutôt emballés.
Je trouve ça chouette, parce qu'après ça ouvre aussi à ce que les autres vivent. C'est bien, on n'a pas besoin de manger de la viande tous les jours.
C'est une bonne chose, c'est une bonne initiative.
Il va y avoir une fois par semaine pas de viande dans l'école.
Quoi ?
Alors c'est bien ou pas ?
Dans toutes les cantines du monde.
Oui.
Non, pas du monde, de France.
Ok, bah oui.
T'aimes la viande ?
Non.
Voilà, alors toutes les cantines de France, effectivement, hein, fréquentées par plus d'un élève sur deux, ça fait au total plus d'un milliard de repas par an, que de toute façon, ces lycéens n'apprécient pas toujours.
Hein. De toute façon, à la cantine, les 3/4 du temps, la viande et les poissons, ils sont pas forcément bons, donc on les mange pas forcément.
Des blocs de viande chelou un peu, avec de la graisse, ils sont pas bons du tout.
Donc ça change pas vraiment, j'ai envie de dire.
lycéen honnête hein, et conscient des enjeux, car l'objectif de la loi, c'est à la fois une meilleure santé et moins d'impact sur la planète, car l'élevage intensif, je le rappelle, est un gros émetteur de gaz à effet de serre et contribue donc au réchauffement climatique, on en parlait. Mais du côté des parents, certains n'ont pas le même enthousiasme.
Pourquoi imposer ça ? Ma fille, elle mange très bien, elle mange équilibré, elle manque à manger équilibré, manger végétarien, ça, je vois pas l'intérêt en fait.
Parfois, vous lui faites manger végétarien ou pas ?
Non, pas du tout. Non, dire pas équilibré, mais végétarien, non, c'est pas dans nos mœurs. Donc. Après, bien sûr, même si ça va avoir des bienfaits écologiques, mais voilà, on se sent pas encore vraiment concerné, peut-être pas assez sensibilisé, peut-être aussi.
Et d'autres espèrent que la qualité suivra, il ne s'agit pas que de supprimer la viande et le poisson.
Je pense qu'ils seront obligés de compenser de manière intelligente, faire, je sais pas moi, des lentilles avec du riz, avec des carottes.
Il faut que ça, en termes de qualité nutritionnelle, hein, que ça soit bien, parce qu'il faut quand même de la protéine pour les enfants.
Et il y a ceux qui craignent également une compensation à base de steak de soja ou de boulettes de pois chiches bien industrielles. Mais dans l'ensemble, 6 Français sur 10 voient cette loi d'un bon œil.
Je pense que ça peut ramener aussi à consommer plus intelligemment.
Je trouve ça très bien parce que moi-même je suis végétarienne et inciter les enfants à manger moins de viande, je trouve ça parfait.
Et ce papa retourne même la situation dans l'autre sens. Écoutez bien Mathieu.
Obligatoire un jour par semaine, à ce moment-là on prend dans l'inverse. C'est obligatoire avec de la viande les 6 autres jours. Enfin les 4 autres jours puisque c'est 5 jours ouvrés.
Et oui, vu comme ça, effectivement. D'autant qu'il n'y a pas toujours le choix dans les cantines. Hein. Beaucoup proposent un menu unique. Enfin, j'ai rencontré ces deux frères. L'un en CM1, l'autre en grande section de maternelle.
J'aime plus les fruits que la viande.
Les légumes, pas trop.
Un petit peu.
Pourquoi tu n'aimes pas la viande de la cantine ?
J'aime, mais j'aime pas tous les jours.
Après, c'est un petit peu énervant d'avoir tous les jours des légumes.
Ah.
C'est pas grave, on va s'y habituer.
Voilà, mignon et un poil plus philosophe que leur grand-père.
On fait une loi comme ça parce que c'est tout. C'est un peu au goût du jour, vous savez, mais un jour on vous dit, il y aura quelqu'un qui fera d'autres études et qui dira, ah mon Dieu, mais maintenant il y a des carences en ceci, en cela, vous voyez. Avant on disait, acheter une voiture diesel, c'est très très bon. Maintenant on dit, non, le diesel c'est atroce, acheter une voiture électrique. Alors à chaque fois, il y a toujours un contre-ordre qui arrive. Et alors je vois pas très bien comment ça peut protéger trop la planète.
Circonspect aussi sur le fait que réduire sa consommation de viande, c'est meilleur pour la santé, avec là un argument étonnant.
Regardez, par exemple, les Japonais qui n'en mangeaient pas du tout étaient plutôt de plus petite taille que les autres. Maintenant, ils en mangent plus, ils ont tous grandi.
Ça vous paraît complètement saugrenu. Eh bien, le monsieur cite en fait les officiels du ministère de la Santé japonais qui expliquaient en 1993, ça remonte un petit peu, que l'augmentation de la consommation de viande et de produits laitiers au Japon a effectivement fait grandir les Japonais au XXe siècle.
Voilà, Camille Passauvert, et c'est bien sûr à réécouter sur franceinter.fr.
Stéphane Costa, le lien entre l'élevage intensif des bovins en particulier et l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, il est avéré ce lien ?
Ah oui, totalement, hein, notamment les bovins, les ruminants qui produisent des gaz à effet de serre par éructation et flatulence. Mmh. Donc ça, c'est connu depuis extrêmement longtemps. Et bien évidemment, ça a une influence non négligeable sur le changement climatique.
Bon, ben voilà, donc un repas en moins par semaine dans les cantines, peut-être que ça participe à moins d'émissions de gaz à effet de serre. Stéphane Costa est notre invité pour parler de la hausse du niveau de la mer et de ses conséquences sur les populations. Et bien sûr, vous nous rejoignez au standard de la Terre au Carré. Thank you.
piso, le un en el con, le un lol nin con, vine en el bay, bueno bichel, le mentir na we, le me soba we, buen mengues, di un ye, buen día en me melón, ay, buen también me mengüesa, buen día en me melón, ay, so por un mes.
Qui nous chantait Roseau à l'instant sur France Inter.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Voilà, Stéphane Costa, chercheur, professeur à l'Université de Caen, spécialiste du trait de côte. Ça, je trouve ça absolument très chic, en tout cas. Et vous êtes notre invité cet après-midi dans la Terre au carré, même si, évidemment, la question de la hausse du niveau de la mer est assez préoccupante. Et on en discute d'ailleurs avec les auditeurs de l'émission. Olivier est en ligne avec nous au 01 45 24 7000. Bonjour, Olivier.
Oui, bonjour, Mathieu.
Bienvenue à vous.
Bonjour, Monsieur Costa.
Bonjour.
On écoute votre question.
Oui, j'aurais aimé savoir un petit peu, vous avez parlé tout à l'heure de la carte de montée des eaux, notamment en France, en métropolitaine, et j'aurais voulu savoir ce qu'il en était de la population ultramarine, notamment la Polynésie, et savoir ce qu'il en est, ce qu'il en sera dans les années à venir. Voilà, merci.
Merci pour votre question, Olivier.
Oui, merci. En effet, on n'a pas parlé des territoires ultramarins. Il se trouve que je fais partie d'un programme de recherche porté par des collègues de La Rochelle, Virginie Duva et Alexandre Magnan, spécifiquement sur la Polynésie française. Effectivement, les atolls, hein, parce qu'on ne parle pas des îles hautes, les atolls sont fortement menacés puisqu'ils sont à quelques mètres au-dessus du niveau de la mer. Dans un secteur, le monde tropical, où l'élévation du niveau de la mer est un peu plus importante, et le stock de sédiments qui permettait éventuellement de se protéger est de moins en moins important parce que les populations l'utilisent pour la construction. Et là-dessus,
le sable concrètement.
Le sable concrètement corallien, oui. Et là-dessus, il y a un risque d'augmentation de la fréquence et de l'intensité des cyclones par réchauffement de la surface de la mer et atmosphérique. Tout cela combiné va bien évidemment menacer ces populations qui sont particulièrement vulnérables et qui n'ont pas envie de partir de leurs atolls. Ils considèrent que les ancêtres ont toujours lutté contre et ils ne voient pas pourquoi eux, ils n'y arriveraient pas. Sauf que là, pour le moment, on a un cyclone tous les 30-35 ans. On a une mémoire qui s'atténue, mais le risque est réel pour ces atolls.
On a Pauline par email, Stéphane Costa, qui demande « Est-il raisonnable de continuer de creuser des ports sur le littoral français ?» Elle prend l'exemple de Bretignolles-sur-Mer, dont on avait parlé dans la Terre au Carré, qui construit un port dans les 5 années à venir. C'est juste en dessous des Sables d'Olonne, en Vendée.
Oui, je connais pas précisément le projet, mais on peut toujours s'interroger sur l'impact de ces ouvrages. Il y a toujours des études d'impact. Il est vrai que quand on commence à taper dans une dune et à creuser des chenaux, on perturbe le transport sédimentaire longitudinal et ça peut renvoyer des problèmes d'érosion en aval des rives chez le voisin. Donc, je ne connais pas bien le projet, mais il y a toujours ces conséquences potentielles.
Jean-Pierre, vous êtes en ligne également avec nous et on vous souhaite la bienvenue. Bonjour.
Oui. Bonjour, je voulais poser la question à Monsieur Costa. À quand l'interdiction complète de l'extraction des matériaux côtiers? Si vous voulez, le drame, c'est que les autorisations d'exploitation sont données par une préfecture maritime locale et les dégâts d'une exploitation peuvent se produire 200 ou 300 kilomètres plus loin sur la côte. J'ai une maison sur la côte d'Opale et le trait de côte est nettement en train de reculer sur cette partie du littoral.
Alors justement, on parlait de l'exploitation du sable, hein, ça en fait partie, Stéphane Costa.
Oui, alors l'exploitation des sédiments, hein, que ce soit des sables ou des galets sur la plage, est maintenant interdit depuis les années 70, hein, parce qu'il y avait des conséquences immédiates. Mmh. Au large, c'est moins vrai. Il y a encore une exploitation parce qu'il faut bien continuer à construire. Et c'est là le paradoxe. Quels seraient les matériaux permettant de la construction sans ces matériaux marins, alors qu'on ne peut plus non plus les extraire en milieu continental, en tout cas en rivière, ça pose des vraies questions. Alors, chaque site aura sa difficulté. Je pense qu'il y a là aussi des études d'impact qui cherchent à montrer l'influence de ces extractions, voir si ces extractions sont suffisamment lointaines du rivage pour pas qu'il y ait d'impact sur le rivage, et puis aussi un impact sur la biodiversité, parce que ces stocks de sédiments sont souvent des zones de nurserie ou de nourrisserie. Mais c'est quand même des études d'impact qui sont extrêmement pointues, et aujourd'hui il n'y a pas d'autres matériaux. Alors je me fais un peu l'avocat du diable.
Tant qu'on n'a pas d'alternative, en tous les
tant
cas,
qu'on a pas d'alternative,
après on peut recycler ce qui existe
c'est
déjà.
C'est ce qui est déjà fait, mais ouais. C'est anecdotique au regard des besoins.
Question de Serge. Existe-t-il des cartes adressées au public sur les zones à risque de submersion en France ?
Oui, tout à fait. Et les services de l'État, hein, DREAL, DDTM, peuvent fournir des cartes sur des secteurs très particuliers, notamment les secteurs qui font l'objet de plans de prévention des risques naturels ou littoraux. Donc vous avez cartes.
Elles sont disponibles pour le public sur Internet ?
Elles sont disponibles sur les sites des services de l'État, notamment l'ADREAL.
Mais il y a des projections aussi, par exemple, pour dans 50 ans. Là, j'imagine que c'est pour les gens qui veulent aussi investir.
Non, c'est sur la situation actuelle.
Alors, l'étude américaine dont on a parlé, elle, justement, propose une carte interactive qui permet de voir, à l'horizon 2050, ce que ça va donner sur l'ensemble du globe.
De fait. Mais quand on lit l'étude, ils considèrent des espaces inondables comme s'il n'y avait pas de dunes, comme s'il n'y avait pas d'ouvrage de protection. Donc, c'est vraiment une baignoire qui se remplit.
Ouais.
Et donc, c'est l'une des limites de l'étude. Ils le disent clairement.
Françoise est en ligne avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour. Oui, la question que je voulais poser, c'est à propos des centrales nucléaires. Parce que je sais qu'en particulier sur la Manche, il y a Gravelines, il y a Penly, il y a Paluel. Et ce sont des centrales qui sont en bordure vraiment de la mer, puisqu'ils ont besoin de l'eau de mer pour se refroidir. Et en particulier, la centrale de Penly est construite sur un polder. Donc on se demande ce qui va arriver, surtout qu'on veut à tout prix prolonger leur durée de vie au niveau du nucléaire.
Stéphane Costa pour répondre à Françoise.
Oui, alors c'est vrai que c'est une question qui est tout à fait légitime, sauf que à la mise en place de ces centrales nucléaires, alors le risque zéro n'existe pas, mais il n'en demeure pas moins que les études d'impact qui ont été faites à l'époque, EDF a levé de gros moyens, ne les ignait pas et maximisait tous les risques potentiels. Déjà à l'époque, dans les années 70, si on parle de la centrale de Penly, ils avaient déjà pris en compte une élévation du niveau des mers qui était proche du mètre et après avaient pris des événements de période de retour millénale pour dimensionner la centrale. Donc, on est grossièrement à l'abri, je pense, de ce genre de difficultés. En revanche, ça n'empêche pas qu'on peut avoir des transferts sédimentaires plus ou moins importants qui pourraient éventuellement venir colmater les ouvrages. Penly a fait l'objet de problèmes de sédimentation, justement, et EDF s'est donné les moyens d'évacuer ce type de problème. C'est quand même très fortement suivi, heureusement, en France.
On a Erwan qui nous demande si le golfe du Morbihan est concerné, et si oui, dans quelle proportion ?
Les Bretons s'inquiètent beaucoup, d'ailleurs, sur l'application France Inter aussi. On a d'autres questions en ce sens.
Oui, comme toutes les régions françaises, malheureusement, toutes les zones basses sont concernées par ce risque de submersion.
Qu'est-ce que vous appelez une zone basse, d'ailleurs, ça veut dire
c'est
quoi ?
C'est une zone topographiquement qui est proche du niveau de la mer actuelle et qui est protégée généralement soit par un ouvrage qu'on appelle un péré, une digue, ou par un cordon de galets ou une dune. Et derrière ces ouvrages ou derrière ces dunes, vous avez parfois des zones topographiquement basses. Et s'il y a une brèche qui se forme, les eaux peuvent s'engouffrer. Et il y en a partout en France et dans le monde, et c'est justement ce qu'on cherchait à montrer nos collègues américains.
Allez, on a encore le temps rapidement de prendre Edouard en ligne au 01 45 24 7000. Bonjour Edouard.
Oui, bonjour l'équipe.
Bonjour.
Votre question s'il vous plaît.
Ma question avec un petit prélude qui concerne...
Très rapidement, on est vraiment à la fin de la séquence, merci.
Ah, entendu. La question concerne le patrimoine bâti, donc, et je pense que ça a été abordé par un de vos interlocuteurs. Quid des protocoles de démolition des ouvrages en béton et de la possibilité d'en faire des récifs ? Je crois que la question a été jugée comme anecdotique précédemment. Toutefois, je voulais mettre ça en perspective avec quelque chose d'intéressant, c'est que quelqu'un qui était à l'Institut du Trait de Côte, en l'occurrence Donatien Cotte, issu de Honfleur, a réalisé pas mal de dessins de côtes, et son fils, sur le port du Havre, a réalisé un mur écran en béton armé gigantesque. Je voulais donc poser ces questions-là. Entre la géographie et l'ingénierie civile, quel serait le levier pour arraisonner des bouts de béton issus de la démolition pour tester des digues en vue...
Alors, Stéphane Costa, une réponse pour Edouard.
Rapide. Alors, effectivement, la démolition de ce type de mur, c'est extrêmement coûteux. C'est la raison pour laquelle on ne le fait pas. Généralement, quand on détruit ces ouvrages, vous avez une accélération pendant quelques années, voire quelques décennies, de l'évolution de l'environnement. C'est la raison pour laquelle on ne le fait pas. Moi, j'aurais tendance à dire, surtout, ne arrêtons la bétonisation du littoral. Ça coûte cher et ça va à l'encontre de ce qu'on recherche.
Merci beaucoup, Stéphane Costa.
Je vous en prie, merci
d'être venu aujourd'hui. Juste après les infos, le feuilleton de la semaine avec un nouveau portrait de jeune européen engagé pour l'environnement. Bon après-midi. Midi à toutes et à tous, il est 14h.
France Inter, la Terre au carré.
Au menu de cette deuxième demi-heure, vos solutions pour la planète. Nous irons à Nantes retrouver Simon, un auditeur qui va nous parler d'un portail web des alternatives. Et puis enfin, notre invité découverte est le réalisateur Stéphane Ballet qui sort Vitis Prohibita sur les écrans. Ce sera demain, un documentaire consacré aux cépages interdits et aux hors-la-loi de la vigne. Caroline Gillet, bonjour.
Bonjour Mathieu.
On vous retrouve aujourd'hui pour la Terre au carré, donc avec ces portraits de jeunes engagés pour l'écologie et l'environnement.
Aujourd'hui, on va se poser la question de comment cet engagement de terrain peut devenir un engagement politique. On commence à Malte d'abord avec Mina Tolou, qui est un jeune militant LGBT et écolo de 28 ans, qui aux dernières élections européennes s'était présenté sur la liste des Verts de son île. Mina avait pris comme exemple pour s'engager Terry Renke, la plus jeune députée verte au Parlement européen en 2014. Elle est allemande. Et elle avait 27 ans quand elle avait été élue. On l'entendra également.
Un des dossiers en ce moment au niveau national, c'est que Malte a plusieurs îles. Et les deux îles les plus importantes sont Malte et Gozo, où les gens vivent. Et là, il y a cette proposition du gouvernement de construire un tunnel pour relier l'île de Malte à celle de Gozo. Mais ils n'ont pas sorti d'études sur les impacts environnementaux, sur ce que fera le tunnel, sur l'environnement marin et aux autres îles. Ça va impacter des aires écologiques qui devraient rester préservées. Et juste la semaine dernière, à la fois le gouvernement et l'opposition ont voté pour lancer le projet du tunnel. Encore une fois, sans laisser personne avoir accès aux études d'impact environnemental.
Mais donc, par exemple, pour le tunnel, ce serait quoi ta proposition ?
Plus de ferries. En ce moment, tous les jours sur nos routes, il y a 80 nouvelles voitures qui sont enregistrées chaque jour. Des véhicules privés. Et donc, on a de plus en plus de blocages et d'embouteillages. Il suffit qu'il y ait une seule voiture qui tombe en panne sur l'une des routes principales de Malte, et c'est tout le trafic qui s'interrompt partout. Et à la place d'avoir une solution sur le long terme, à la place d'investir dans les transports en commun et de mettre en place de meilleures infrastructures, ils se contentent d'adapter les routes aux voitures. Il y a environ 8 ans, j'ai fait mon coming out en tant que lesbienne et j'ai réalisé que d'une certaine façon, j'étais une citoyenne de seconde classe à Malte. Parce qu'on n'avait aucune loi, pas de place propre et il y avait peu de personnes qui luttaient pour les droits LGBT. Et les Verts ont toujours été un allié naturel dans ces luttes. C'est eux qui ont inscrit en premier des propositions dans leur manifeste, ont évoqué le mariage pour tous. Je ne pense pas que je serais entrée en politique si je n'avais pas été queer. Je viens d'un milieu social très confortable. Donc j'aurais pu continuer ma vie comme ça. Je crois que sans cette expérience LGBT, je n'aurais sans doute pas vraiment été confrontée aux nombreux problèmes de notre société. Ça a fait que je devais forcément me politiser. Et j'ai eu une vraie prise de conscience.
Quand j'ai fait des recherches, je suis tombée sur cette vidéo. Il intervenait sur un panel du European News Forum et répondait à la question « Pourquoi est-ce que tu es candidat aux élections européennes ? » Mina, sur cette vidéo, dit « Je voyais les listes à Malte et jamais aucun candidat ne m'intéressait. Aucun ne me donnait envie de voter. Alors je me suis demandé à quel genre de candidat j'aurais eu envie de donner mon vote. Et je me suis rendu compte que c'était pour un candidat comme moi. Alors Mina s'est présentée, avec les Verts.
Et j'ai aussi eu la chance de rencontrer des politiques comme Terry Reinke et de parler avec elle de son expérience de jeune femme en politique. Ça a changé mon regard. Elle m'a dit, écoute, si ça te tente, alors lance-toi. Et si tu fais une campagne une fois et que tu te rends compte que t'aimes pas ça, au pire, tu ne le referas plus jamais.
On revient à Terry Reinke, la plus jeune élue du Parlement européen. C'était en 2014, elle avait 27 ans. J'étais allée la voir dans son bureau pour un café l'année dernière et elle m'avait raconté sa première visite au Parlement qui datait de ses 20 ans. Elle se souvient d'avoir été alors marquée par les tenues vestimentaires.
Bien sûr, il y a des gens qui portent des costumes, mais il y en a aussi qui n'en portent pas. Et je suis arrivée ici, j'avais cet énorme sac à dos, je me suis dit que je ne serais pas à ma place, j'avais un petit peu peur, et je n'avais pas d'endroit où laisser le sac à dos. Et en fait, quand je suis passée par le portail de sécurité, personne ne m'a rien dit, personne n'a fait attention à mes habits un peu usés et à cet énorme sac. Pour moi, ça a vraiment été un moment très positif, parce que j'ai senti que c'était aussi mon espace, que c'était ma maison, mon espace démocratique. Moi, je me suis toujours dit que j'avais été élue à ce poste, donc soit ils m'acceptent comme je suis, soit je fais un scandale.
Caroline, depuis ce tournage, que sont devenues ces deux personnes que vous avez croisées, ouais.
Alors Mina, malheureusement, n'a pas été élue, mais il continue à s'engager sur l'île. Je le trouve très très courageux, vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux. Et puis sinon, les Verts qui ont obtenu 21 sièges, dont un donc pour Terry Reinke.
À la suite de vos portraits européens, demain dans la Terre au carré. À demain Caroline.
À demain
Gillet.
Mathieu.
France Inter, la Terre au carré, vos solutions pour la planète.
Allons à Nantes, Camille.
Allez, chez vous, Mathieu, vous êtes content.
Accueillir Simon. Bonjour, Simon.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous êtes l'un des initiateurs de Transiscope. C'est un portail web des alternatives. Alors, on est sur la page, d'ailleurs, de Transiscope pour découvrir un petit peu de quoi il s'agit. Enfin, le portail d'accès unique au projet de la transition écologique et sociale. Donc, on peut rechercher, géolocaliser, filtrer et trouver donc l'alternative qui nous correspond parmi toutes ces données. Racontez-nous l'histoire de ce portail web.
Alors en fait, il est né pendant la COP21 à Paris. On était militants avec Victor Vauquois, avec Alternatiba. Et on s'est rendu compte que dans Alternatiba, on avait fait 150 villages, que dans chaque village, il y avait environ 100 alternatives de référencés, ce qui nous portait une myriade d'alternatives, environ 10 000 alternatives qu'on pouvait mettre sur une carte et qu'on ne le faisait pas. Et donc c'est parti de là. Comment faire une carte qui agrège tout ce qui existe?
Donc c'était ça l'idée, hein. Elle était toute simple, effectivement, c'était de pouvoir sur un seul portail proposer toutes les alternatives qui existent. Ça vous a demandé combien de temps pour concrétiser justement le projet?
Ah ben ça a demandé 3 ans, il y a eu deux grosses phases, deux gros travaux. Le premier, ça a été l'innovation technologique, parce qu'il fallait créer les outils open source qui nous permettaient de faire ça, parce qu'ils n'existaient pas. Mmh. Et puis le deuxième, c'est la gouvernance, monter la gouvernance avec plus de 8 collectifs au début, puis là maintenant on est 13 ou 14, dont Alternatiba, l'Assemblée virtuelle, les Colibris, le CRID, le CAC, le mouvement pour l'économie solidaire, pour ne mentionner qu'eux, et du coup, il a fallu monter tout ça. Et on est sorti l'année dernière, il y a environ un an, on a fait dans un an, il y a un mois.
Voilà.
Et donc, quand on est sur votre site, Simon, là, je suis en train de regarder à côté de la carte, en fait, c'est classé par thème, hein. Il y a écologie, alimentation, énergie, par exemple, bien-être physique et personnel, éducation, formation, habitat et urbanisme. Vous avez vraiment réussi à tout catégoriser.
Ben oui, ça c'était un gros travail aussi, ça faisait partie de la gouvernance, parce que chacun a sa vision du monde, chacun a sa manière de voir les alternatives, et du coup il a fallu se mettre d'accord entre tous les collectifs pour établir une taxonomie commune, et on est parti des travaux de chacun, et on a tout mis ensemble, et il a fallu 6 mois pour réussir à aboutir à se mettre d'accord.
Alors Simon, les engagements de la transition écologique et sociale, ça veut dire quoi d'ailleurs concrètement?
Alors en fait, une des particularités du projet, c'est qu'on a une vision assez assez subjectif de la transition, dans le sens où on porte une attention politique. Donc du coup, tout ce qui rentre dans la cartographie de Transiscope, doit à la fois être une alternative citoyenne, gérée par les citoyens, être une réponse concrète aux crises systémiques et climatiques. Et puis aussi, on a beaucoup d'importance au fait que l'alternative doit réaliser un ou plusieurs communs, c'est-à-dire que ça doit être un intérêt collectif et pas un intérêt individuel, par exemple.
Alors Camille, qu'est-ce que vous avez trouvé sur le site?
Je viens de taper l'adresse de Radio France et il y a la map de Radio France qui est répertoriée, par exemple, sur votre site Transiscope, Simon.
Oui, c'est une des sources qui nous le fournit. En fait, il y a 24 sources. Et on continue à augmenter, et en fait chacune a un peu de sa particularité, et notre objectif c'est de ne pas prendre la place des sources. Les sources sont les gens qui savent référencer de l'information, et nous on ne fait que agréger et visualiser le tout. Donc je sais pas, c'est une des sources qu'a dû nous fournir votre...
Je vous pose la question aussi, parce que pas très loin, à 2 km, je vois artiste, donc j'ai cliqué dessus. Donc c'est un artiste qui a mis le lien de son site internet, par exemple, qui dit artiste engagé, mes thèmes tournent beaucoup autour de la beauté, de la création, de la destruction environnementale et sociétale. Ça, vous vérifiez quand même que c'est pas quelqu'un qui veut juste se faire sa petite pub et se faire répertorier sur votre site, en l'occurrence?
Alors, oui, on vérifie, mais on vérifie pas alternative par alternative. On vérifie source par source. Les sources s'engagent à respecter la charte. Il arrive qu'il y ait des trous dans la raquette. Dans ce cas-là, eh bien, on revient vers la source, on lui dit qu'il y a un problème et on améliore notre procédure d'import de ces data en faisant des filtrages.
On va vous envoyer Camille, vous allez voir, elle va vous revoir tout votre site internet et vous envoyer les adresses un peu suspectes.
Il y en a 22 000, ça fait beaucoup.
Ouais. En tout cas, c'est vrai que c'est un vrai annuaire de contact qui permet justement de se connecter à toutes les alternatives locales. Est-ce que ça pourrait quasiment représenter une sorte de panel complet pour une planète B, Simon?
Alors en fait, c'est un peu notre objectif, parce que notre objectif c'est d'être exhaustif, parce que on veut que montrer que la planète B existe déjà, en fait, et qu'il n'y a pas besoin d'attendre qu'elle se construise. Elle se construit par les citoyens dès maintenant, et notre objectif c'est que les citoyens puissent trouver les acteurs de la transition et puis les rejoindre pour faire grimper cette évolution de la société. Et puis aussi, notre autre objectif, c'est d'accélérer la mise en réseau de ces alternatives pour que quand quelqu'un veut créer quelque chose sur son territoire, et ben il puisse d'abord vérifier qu'il n'y a pas d'autres qui le font déjà, et plutôt que de créer à nouveau, s'agréger à ce qui existe déjà pour être plus puissant.
Voilà, donc 22 000 alternatives proposées, c'est ce que vous nous disiez, mais à ce jour, parce qu'évidemment ça va grandir, je crois même que vous dépassez les frontières de la France maintenant.
Alors ça commence, là on discute avec la Belgique, la Suisse et puis avec le réseau Transition Network International. Et notre objectif pour l'instant c'est de rester francophone, parce qu'on n'a pas assez de moyens et d'humains pour aller à l'international complètement, mais on y va doucement, sans presser et sans le chercher obligatoirement, ça vient plutôt à nous.
Ben bravo en tout cas pour cette initiative. Ça s'appelle Transiscope, le portail web des alternatives. Transiscope.org pour le retrouver évidemment sur le web ou sur la page de la Terre au Carré. Merci Simon, bonne journée à vous. Et si comme Simon vous avez aussi des projets à titre individuel ou collectif dont vous souhaitez nous parler, ben il suffit de nous envoyer un petit message sur franceinter.fr à la page de l'émission. Allez, dans un instant, on s'intéresse avec notre invité découverte un documentaire consacré à des cépages interdits qui font de la résistance, et c'est un documentaire qui sort demain dans les salles.
Ma sœur, nous avons des cœurs si à moi, et chaque coup que tu reçois ricoche et me frappe deux fois. Je tiens dans ma main ton poing serré, et rien ne peut nous résister puisque nous l'avons décidé. Jamais dit que ce serait facile, mais je serai là. Personne ne croit en toi comme j'y crois. Personne, personne. Je serai là même s'il ne devait rester personne, personne. Personne ne croit en toi comme j'y crois. Thank you.
comme si une chaîne avait relié invisiblement nos poignets. Le jour où nous sommes nés. Alors si tu coules, je coule aussi. Et je tiens bien trop à la vie pour que ça puisse être. Jamais dit que ce serait facile, mais je serai là. Personne ne croit en toi comme j'y crois. Personne, personne, je serai là même s'il ne devait rester. Personne, personne, personne ne croit en toi comme j'y crois.
Ma sœur, c'était Clara Luciani.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Mon père, quand il a hérité du domaine, il y avait de la Ramon, il y avait du Carignan. Il me l'a transmis avec des Chardonnays, des Cabernets, des Grenaches et de la Syrah. Et je pense que quand je le filerai aux enfants, ben ces cépages-là, malgré tout l'amour qu'on peut avoir pour eux, pour toute l'histoire qu'on a avec eux, ben je pense qu'il n'y en aura plus beaucoup quand on transmettra le vignoble aux enfants et qu'on sera sur d'autres cépages. Est-ce que ça sera celui-là? Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, ça sera d'autres cépages qui seront résistants, qui seront mieux adaptés à nos modes de culture, etc. Donc pour nous, cette transition paysanne viticole, elle est actée. C'est-à-dire que nous, en tant que paysans, on n'a pas envie de revenir à des cépages qui soient phytodépendants. Moi, je n'ai pas envie d'envoyer mes gars, ou moi personnellement, ou que mes enfants, soient sur des appareils pour aller traiter. Et ça, parce que quand tu as goûté à des cépages que tu ne traites plus, ou que tu n'es plus embêté avec ça, tu n'as pas envie de revenir en arrière.
Bonjour Stéphane Ballet.
Bonjour.
C'est la voix du vigneron Vincent Pugibet qu'on entendait à l'instant du domaine languedocien de la Colombette. Oui. Et c'est extrait donc de ce documentaire que vous réalisez, Vitis Prohibita, qui sort demain en salle et qui nous plonge donc dans l'univers méconnu des cépages interdits. Ces cépages qui racontent donc l'histoire de cépages résistants, mais aussi, on peut dire, l'histoire tout court d'une résistance.
Hein. Oh,
il y a les deux à la fois.
Hein. Oui, c'est la résistance aux maladies et la résistance des hommes.
C'est ça, ouais. Avec la mobilisation donc de militants passionné par une viticulture plus durable, on l'a compris. Mmh. Qu'est-ce que c'est exactement, justement, qu'un cépage interdit aujourd'hui?
Alors, il y a 6 cépages qui sont interdits, ils sont dans une liste. Ce sont plutôt des anciens cépages. Il y a le Clinton, l'Isabelle, l'Herbemont, le Jacquet, je sais plus. Ouais. Mais voilà, ils sont 6, ils sont nommément cités. Mmh. Et il y a avec eux toute une catégorie de cépages qui sont les cépages hybrides, qui sont donc de nouvelles variétés qui ont été créées en hybridant, en utilisant le pollen de certaines variétés. Avec d'autres variétés pour créer de nouvelles variétés. Donc c'est pas de l'OGM, hein, c'est vraiment de la reproduction sexuée. C'est important parce que
on l'explique bien d'ailleurs dans le film comment ça fonctionne. Hein.
C'est important de développer ça, voilà.
Mais pourquoi on les interdit?
On les a interdits. En fait, c'est une interdiction qui est arrivée en deux vagues. La première, c'était au début des années 30. Il fallait régler un problème de surproduction. Des cépages d'origine américaine ont été introduits au milieu du 19e siècle et ils ont amené beaucoup de maladies. Le phylloxéra, l'oïdium, le mildiou. Et donc, il y a eu un effondrement de la production. Et justement, en trouvant dans ces cépages qui étaient finalement porteurs 5, qui ont amené les maladies, mais eux-mêmes résistaient à ces maladies, on a trouvé des solutions pour contenir ces maladies et pour les contourner. Par exemple, les porte-greffes. On a utilisé aujourd'hui, la majorité des vignobles dans le monde sont sur porte-greffes. C'est des variétés d'origine américaine. Voilà. Et on a créé aussi donc des hybridations avec ces variétés résistantes et nos variétés pour lesquelles on voulait garder le goût. Voilà.
Mais ce sont des cépages qui sont bons à boire ?
Alors, ah bah oui, on n'arrête pas de picoler pendant le film.
Avec modération. Non, mais s'il y a une interdiction à la base, oui. Est-ce qu'on veut faire croire aux gens qu'on ne peut pas les boire?
Mais c'est ça, voilà. Mmh. Alors après, je reviens à la deuxième vague de la... Parce que, donc du coup, après cette première interdiction, comme ces cépages ont des rendements très très supérieurs à nos cépages classiques, on s'est retrouvé avec une surproduction. Donc, 6 ont été désignés pour les bannir. Voilà. Ensuite, à la fin des années 50, une deuxième interdiction, plus générale, plus large, qui a concerné vraiment tous les hybrides. Avant, un tiers du vignoble était planté en hybride. Et on disait effectivement que le vin n'était pas terrible, que c'était pas qualitatif, etc. C'était certainement vrai pour une part, et que certainement cette interdiction était bien fondée à l'époque pour restructurer la profession, augmenter la qualité et retravailler les goûts, faire les classifications, les AOC, etc. etc.
Mais Camille a raison, c'est vrai que ce vin qui est interdit officiellement, finalement ce que vous nous montrez dans le film de bout en bout, c'est qu'on peut le boire et qu'il est même vendu d'ailleurs.
Hein. Alors, il n'est pas tout à fait vendu.
Il y a quand même des productions qui sont...
S'il était vendu, on serait dans l'interdit, dans l'illégalité. Donc il y a des moyens de contourner le...
C'est ce que fait d'ailleurs le vigneron qu'on a entendu
voilà.
à l'instant.
Alors vous pouvez adhérer à l'association, puis en échange vous avez des bouteilles, ou alors les nouveaux viticulteurs qui travaillent sur les nouvelles variétés de cépages résistants, ils font de la recherche. Donc, au titre de la recherche et de l'expérimentation, ils peuvent vendre les bouteilles. Mmh. Si c'est écrit sur la bouteille, il n'y a pas de problème.
Ouais. Voilà. Comment vous êtes intéressé, vous, à ce sujet,
Oh, c'est une histoire de famille. Ouais. On est originaire des Cévennes et j'ai toujours eu la bouteille de Clinton à la maison. et d'ailleurs, je me demandais pourquoi mon père s'intéressait à ce vin qui avait un petit goût particulier. C'est vrai qu'ils ne ressemblent pas au goût qu'on connaît, ouais. nos vins classiques. Ils ont des saveurs très particulières.
Ouais. Alors, elles sont décrites d'ailleurs très bien dans le film. Hein. Il y a une sorte d'amertume, d'acidité.
Oui, il y a à la fois, donc c'est très fruité, c'est très puissant, et à la fois il y a un petit côté sauvage, voilà, effectivement.
Ce qui n'est pas tellement dans les standards d'ailleurs aujourd'hui.
Qui n'est pas dans les standards, et qui en plus a pu être exacerbé à une époque où nos vignerons, entre guillemets amateurs, c'est-à-dire les familles qui avaient les treilles à la maison, qui étaient les prolétaires qui travaillaient à la mine en Cévennes et qui ensuite faisaient leur propre vin, ils n'avaient pas les outils forcément adéquats pour développer leur vin, et ça faisait des vins qui n'étaient pas forcément super bon, quoi. Voilà. Ouais. Donc, on a utilisé ça pour accuser et les lobbies ont dit, mais de toute façon, regardez, c'est pas bon, c'est ignoble, ça fait pas des vins qualitatifs, etc.
Et quelle différence, je fais une question assez naïve, mais quelle différence avec le vin biologique dont on parle de plus en plus aujourd'hui?
Ah, mais ces cépages, en fait, ils étaient bio avant même qu'on parle de bio.
Oui, mais alors, les bio qu'on vend aujourd'hui, alors c'est...
Moi, dans le film, je compare pas les techniques et les méthodes. Je n'oppose pas ou je ne mets pas en parallèle le bio, la biodynamie, le conventionnel, etc. Moi, je parle de cépages et de végétaux. Donc après, c'est la manière dont vous allez les utiliser qui va faire que ça va être bio ou pas bio ou moins bio. Il se trouve que ces cépages-là sont extrêmement résistants aux maladies. Alors, pas tous, hein, ce n'est pas les super-héros. Certains vont être plus résistants à certaines maladies et à d'autres. Mais en tout cas, ils vont permettre de se priver des produits
phytosanitaires. Hein. Et Vincent Pugibet qu'on entendait justement, il y a une séquence à la fin du film, on le voit justement dans sa vigne, avec une sorte de vigne laboratoire, avec d'un côté justement ces cépages interdits sans pesticides, et de l'autre des vignes d'orangers, hein, je crois, qui ont été utilisées avec des pesticides.
Oui, c'est la rangée test en fait.
Ouais. Et on voit la différence flagrante entre les deux.
C'était peut-être une vigne laboratoire au début, mais aujourd'hui c'est sa production. Hein. Il sort plein de bouteilles, des milliers de bouteilles, je pense, j'imagine. Oui.
Alors, ce qui est très attachant dans votre documentaire, c'est aussi toutes ces générations hein, qu'on voit, c'est-à-dire à la fois les anciens auxquels vous donnez beaucoup la parole et qui ont vraiment transmis finalement cette tradition du vin de treille, et puis la jeune génération qui prend ça aussi à bras-le-corps et qui défend aussi cette idée d'une viticulture durable.
Oui, alors Il y a les deux aspects, c'est-à-dire qu'il y a ces vieux vins, les cépages que j'ai nommés tout à l'heure, par exemple le Clinton, l'Isabelle. Là, l'interdiction, il est très fort sur ces vins-là. Peut-être que l'interdiction va pas aller au-delà, ça va peut-être rester. Mmh. Ils sont intéressants, mais en tant qu'anciens cépages, ils sont très bons. Mais l'idée, c'est pas de relancer la viticulture avec ces vins-là. L'idée, c'est de relancer la viticulture, d'aller vers une nouvelle viticulture. C'est une des solutions en utilisant les caractéristiques de ces vins pour créer de nouvelles variétés et de faire des nouvelles variétés, voilà, qui sont adaptées aujourd'hui à la fois au terroir, à la fois au climat qui est en train de changer, parce que c'est important aussi. C'est pas seulement une question de pesticides et de produits phytosanitaires. Voilà. Donc il y a à la fois dans le film ce côté un peu du passé, voilà, qui est un peu nostalgique.
C'est une mémoire, mais c'est surtout
une mémoire. C'est ça qui m'a intéressé. Et aussi l'avenir.
Est-ce que c'est juste en France ou est-ce que ça existe ailleurs?
Ah non, ça concerne toute
l'Europe. Vous êtes allé dans plusieurs pays?
Ça concerne toute l'Europe puisque les interdictions sont parties de France, mais avec l'arrivée de l'Europe, ça a été étendu à toute l'Europe.
On voit l'Italie, l'Autriche et les États-Unis d'ailleurs.
Et les États-Unis, parce que j'ai bien voulu aller voir comment ça se passait là-bas, le berceau de ces cépages, en me disant, mais là-bas, ils sont pas interdits. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais retrouver le Clinton? Est-ce que je vais retrouver l'Isabelle?
Ouais. Et alors?
Mais bien sûr, ils y sont.
Ouais. Et d'ailleurs, et les Américains vous ont même récompensé pour ce documentaire.
Oui, j'ai eu un prix à Los Angeles.
Étonnant, bah, c'est vrai qu'en Californie, on aime beaucoup le vin aussi. Hein.
C'est vrai. Je crois qu'ils ont apprécié le parallèle de l'histoire de la viticulture américaine et française, qui sont vraiment très très liés. Oui. Mmh.
On pourra le voir dans plusieurs salles en France. C'est toute la difficulté de sortir un documentaire aujourd'hui. Il y a une salle à Paris,
l'Espace Saint-Michel. Mmh. Voilà, à partir de demain, des séances quotidiennes. Et puis demain soir, on a une soirée dégustation avec un sommelier.
Parfait.
Voilà, et il y aura d'autres séances spéciales dans le courant de la semaine et plus. Ouais.
Et dans les Cévennes, vous avez des salles de cinéma,
Cévennes,
j'espère.
Bien sûr, il y a des projections dans les Cévennes. Il y a toute la liste des projections sur le site vitis-prohibita.com.
Le voilà. Tout à consommer avec modération, je le rappelle, je fais ma rabat-joie.
La voix de la sagesse, Camille.
Heureusement que je suis là. Hein.
Vitis Prohibita, c'est un documentaire passionnant et attachant donc sur ces cépages résistants et interdits. Merci beaucoup, Stéphane Ballet, d'être venu nous en parler. Et longue vie à ce film qui sort donc demain dans les salles Vitis Prohibita. Merci Camille.
À demain.
À demain.